Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur la loi Duplomb. Elle a été adoptée début juillet à l'Assemblée nationale et elle fait pas mal parler d'elle, notamment parce qu'elle semble répondre à des demandes assez anciennes de la FNSEA sur les pesticides.
Oui, c'est un point clé, effectivement. Surtout que, bon, le contexte est assez particulier. Cette loi, elle arrive après les grosses manifs agricoles de début 2024 et elle autorise, entre autres, le retour temporaire de l'acétamipride.
Ah oui, cet insecticide de la famille des néonicotinoïdes, qui avait pourtant été interdit en 2020, c'est ça ?
Exactement. Interdit à cause de son impact connu sur les pollinisateurs, les abeilles notamment. Donc, oui, ça suscite des réactions. Et puis, ça s'inscrit dans un mouvement plus large que certains appellent un peu des rétropédalages environnementaux sur le climat, la biodiversité.
D'accord. Alors, notre objectif ici, c'est de comprendre un peu comment cette loi s'est construite, de voir quel a été le poids, l'influence de la FNSEA, notamment sur le plan éco-phyto, et puis bien sûr de décrypter ce qu'il y a concrètement dans cette loi Duplomb.
Alors, pour commencer, il faut peut-être rappeler que la FNSEA s'est toujours montrée assez critique vis-à-vis du plan éco-phyto. Ce plan, lancé en 2008, visait à réduire de moitié l'usage des pesticides. L'argument principal de la FNSEA, c'était, et c'est toujours, que le système d'homologation des produits, il est déjà là pour gérer les risques.
Et on voit bien, d'après les sources, que les manifestations de janvier-février ont été un moment stratégique pour eux.
Oui, tout à fait. Même si, attention, les revendications des agriculteurs sur le terrain étaient beaucoup plus larges. Les normes, les revenus, le sentiment d'être un peu délaissé.
Bien sûr.
Mais la FNSEA a réussi à remettre la question des éco-phyto au centre du jeu politique à ce moment-là.
Avec succès, apparemment.
Oui, un succès certain. D'abord, le gouvernement a annoncé une mise en pause des éco-phyto. Et ensuite, ils ont obtenu un changement de l'indicateur qui sert à mesurer la réduction des pesticides. Un changement qui, d'après pas mal d'analyses, affaiblit considérablement l'ambition du plan. Donc oui, une influence politique assez nette. Venons-en à la loi Duplomb elle-même. Le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est ce principe « pas d'interdiction sans solution ». C'est un slogan qu'on entendait beaucoup du côté de la FNSEA.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la loi ?
Alors, concrètement, ça veut dire qu'on peut déroger à une interdiction de pesticides de manière temporaire s'il n'existe pas d'alternative jugée équivalente. Et la loi précise ce qu'est une alternative équivalente. Il faut qu'elle offre une protection similaire pour la culture et que son coût soit acceptable pour l'agriculteur.
Et c'est là que ça coince pour certains observateurs, non, cette définition de l'alternative ?
Exactement. La critique principale, c'est que cette définition, très focalisée sur l'efficacité et le coût immédiat, risque de privilégier une comparaison produit chimique contre produit chimique.
C'est-à-dire ?
Ça pourrait mettre de côté d'emblée des solutions qui sont plus agronomiques, plus systémiques. Je pense à la rotation des cultures, au choix de variétés plus résistantes, au travail du sol, des choses qui ne sont pas un simple produit de remplacement, mais qui demandent de changer un peu les pratiques.
Je vois. Une approche terme à terme qui pourrait freiner l'innovation vers des systèmes différents, en somme.
C'est la crainte, oui. Et puis il y a ce retour de l'acétamipride, même temporaire. C'est vu comme un mauvais signal pour la biodiversité et comme une façon de faire primer certains intérêts économiques sur l'environnement.
Ce qui nous ramène à la question de l'influence. Cette loi est clairement perçue comme une victoire politique pour la FNSEA.
Oui, elle démontre leur capacité à faire passer leurs priorités dans un moment de forte pression. Et c'est intéressant de noter que ça arrive alors même que le monde agricole est très divers, très fragmenté, et que la représentativité de la FNSEA est parfois débattue.
Et est-ce que cette loi, finalement, répond vraiment au malaise agricole qui s'est exprimé début 2024 ?
C'est une vraie question, parce que la loi est très technique, très centrée sur les pesticides. Elle semble surtout apporter des réponses aux exploitations les plus intensives, celles qui dépendent le plus de ces produits. Mais les manifestations, elles parlaient aussi beaucoup de revenus, de juste rémunération, des accords commerciaux, de la concurrence, des sujets qui sont un peu absents de ce texte-là.
Donc on aurait une réponse technique, peut-être utile pour certains, mais qui passerait à côté d'enjeux plus fondamentaux.
C'est une lecture possible, mais... Et ce principe « pas d'interdiction sans solution » tel qu'il est défini, pourrait même paradoxalement ralentir la recherche d'alternatives plus durables.
Comment ça ?
Si on conditionne le retrait d'un produit potentiellement dangereux à l'existence d'une solution parfaite, immédiatement disponible et pas plus chère, ça peut décourager l'investissement dans des approches nouvelles qui demandent peut-être un peu de temps d'adaptation ou un changement de système plus profond. On risque de rester un peu figé.
D'accord. Alors, pour résumer un peu notre discussion, la loi Duplomb semble bien être le résultat d'une influence politique efficace de la FNSEA dans un contexte social et politique particulier. Oui, elle traduit ce slogan « pas d'interdiction sans solution » en texte de loi, mais elle soulève de vraies questions sur l'équilibre entre les intérêts de certaines filières agricoles et la protection de l'environnement, de la santé aussi.
Elle apporte peut-être des réponses à court terme sur des points techniques précis pour certains agriculteurs, sans doute, mais elle laisse un peu en suspens les grandes questions sur le modèle agricole qu'on veut pour demain, sur la répartition de la valeur, sur la diversité des agricultures. Et pour laisser une dernière réflexion à celles et ceux qui nous écoutent, si ce principe « pas d'interdiction sans solution » nous pousse toujours à chercher le produit chimique B pour remplacer le produit chimique A,
comment fait-on pour ne pas freiner, voire bloquer, la transition vers des agricultures qui utiliseraient des méthodes complètement différentes, peut-être plus en phase avec l'environnement, mais qui ne rentrent pas dans cette case du remplacement produit pour produit ? C'est une question qui reste ouverte.